Recoin de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures.
Aujourd'hui, nous allons parler de la surveillance selon la parole de Dieu. Imaginez une maman qui regarde ses enfants jouer dans le jardin. Elle est contente de les voir passer du temps ensemble. Elle en retire de la joie. Elle participe même aux activités et en même temps, elle est consciente de sa responsabilité à elle. Elle surveille pour que tout se passe bien. Elle a les sens éveillés pour anticiper ou agir si un danger survient. Elle ne les surveille pas dans un esprit restrictif, non. Elle veille sur eux, avec amour et pour leur bien. C'est de la bienveillance. Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé.
Alors, il me semble que souvent, nous avons un sentiment plutôt négatif quant à la surveillance.
C'est vrai qu'on est influencé par le monde qui nous entoure et tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, non pas nécessairement dans nos familles, mais aussi dans les milieux scolaires, par exemple.
Oui. nous vivons dans des sociétés qui sont très surveillées, en effet. Et on n'en a pas que des bons souvenirs.
Oui.
En tout cas, dans le monde, la surveillance nous fait penser à des intrigues, à des luttes de pouvoir, des motifs cachés, des libertés compromises. On voit des caméras de surveillance dans les magasins, par exemple. On se sent mal à l'aise, comme si on soupçonnait que je pourrais faire quelque chose de criminel. Et quand bien même ces caméras de surveillance sont également là pour assurer ma sécurité, et donc pour mon bien, je ne suis pas à l'aise quand je me sens surveillé.
Oui, c'est justement un des aspects de notre première nature, je vais dire. Parce que, on le sait, on n'est pas parfait devant Dieu, mais on a cette relation qui est établie, que l'on doit entretenir. Et si pour un acte posé, nous avons peut-être une distance qui s'installe, alors nous ressentons à nouveau, justement, ce malaise vis-à-vis de celui qui est dans le ciel et qui nous voit.
Oui, C'est vrai que le Seigneur nous voit en tout temps. Et avons-nous l'impression que le Seigneur nous surveille?
Voilà, alors on va lire un passage de la parole, parce que c'est important d'avoir la parole ouverte devant nous. Donc nous lirons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 25. Vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Alors sans doute est-il question ici plus du peuple juif, bien sûr, sur lequel eh bien, il y a eu ce Lo-Ami et ce Lo-Rukama qui a été prononcé. Et maintenant que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, qu'il a réalisé son œuvre de grâce, il n'y a plus ni juif ni grec. Et donc l'épître de Pierre s'adresse plus spécifiquement au peuple de la dispersion, comme il est dit dans le premier chapitre, dans les premiers versets. Et donc, voilà, vous étiez errants comme des brebis sans berger. Et maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Pour l'homme des nations, il est venu au berger et au surveillant de son âme.
C'est un très joli titre, puisque le surveillant de nos âmes, c'est bien le Seigneur Jésus lui-même qui se présente comme le bon berger dans Jean chapitre 10, et donc surveillant de nos âmes. C'est un joli titre de la part du Seigneur Jésus. Et on n'est pas mal à l'aise quand on prend conscience que le Seigneur est le surveillant de notre âme. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mal à l'aise quand on pense au Seigneur Jésus, quand on est une de ses brebis, et qu'on pense et qu'on prend conscience qu'il veille?
Oui, le Seigneur nous voit dans le chemin, et nous avons aussi cette pensée qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme. Donc il connaît tout ce qu'est le parcours sur la terre vis-à-vis de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'elles soient présentes pour nous intérieurement ou tout ce qu'il y a comme contact extérieur.
Oui, nous voyons le Seigneur Jésus comme celui qui sait exactement où il faut veiller pour notre bien. Il est passé par ce chemin au travers de la terre, au travers du monde, et il a vu tout ce qui s'y passait. Bien sûr, en tant que Dieu, il sait toutes choses, mais cela nous fait plaisir et cela nous réconforte de savoir qu'en tant qu'homme, il est également passé par là et il est le surveillant de notre âme.
Voilà. Et lorsque le Seigneur s'en va, s'en retourne vers son Père, vers Dieu, élevé dans la gloire, il nous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui habite en nous. Donc non seulement le Seigneur nous voit depuis le ciel, nous l'avons dans nos cœurs, mais il y a cette personne divine qui habite en nous et qui est là aussi pour veiller sur nous, pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous instruire.
Oui, donc Dieu, bien, il veille sur nous à tous les niveaux. Il nous veille sur nous d'en haut et puis il nous a donné le Saint-Esprit, qui est Dieu, une personne divine à part entière, qui est en nous et qui sont de toutes choses et toutes les choses qui est aussi dans nos cœurs. Et même quand on se rend compte de nos faiblesses et de nos manquements, et c'est probablement quand on est en bonne santé spirituelle qu'on en est le plus conscient, on ne se sent pas mal à l'aise vis-à-vis du Seigneur ou de l'Esprit-Saint. Au contraire, le Seigneur est le surveillant de notre âme, et cela nous fait du bien de le savoir. Cela nous réconforte, cela nous fortifie dans le chemin.
Sachant que il veut nous montrer le bon chemin, il veut nous montrer les bonnes choses, il veut que nous conservions cette communion étroite, intime, comme on le voit avec plusieurs serviteurs de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et des apôtres et des disciples dans le Nouveau Testament, où il y avait cette relation très étroite. Et donc, ce surveillant veille à ce que, comme un berger, veille à ce qu'une brebis ne s'éloigne pas, qu'elle reste sous les yeux du conducteur, du berger, du surveillant.
Oui, ce lien étroit, il est par le Saint-Esprit. Celui qui nous fait voir les qualités, les beautés, les perfections du Seigneur Jésus, qui est notre surveillant. Et nous ne sommes pas mal à l'aise de savoir que le Seigneur nous regarde et qu'il veille, parce que nous avons et nous apprenons à le connaître par l'Esprit qui nous a été donné, au travers des Écritures aussi, et nous n'avons aucun doute que le Seigneur Jésus applique une surveillance bienveillante. Et c'est là la clé de la question. Il faut que la surveillance, comme elle est selon la parole de Dieu, il faut qu'elle soit bienveillante, comme celle que le Seigneur Jésus applique lui-même à notre égard. C'est une surveillance bienveillante.
Tout à fait, voilà. Et donc ce sont toutes des choses qui peuvent être encourageantes, qui peuvent aussi nous ramener, parce qu'on a vu dans l'épître de Pierre, ramener une brebis, ce n'est plus le troupeau d'Israël qui revient en entier, mais c'est une brebis qui s'est isolée, qui a regardé vers un autre pré, peut-être une autre nourriture, ou parce que le surveillant a vu l'adversaire qui est là et qui cherche après une brebis peut-être plus faible, une brebis qui s'égare. Tout ça fait partie de la surveillance du Seigneur Jésus.
Et dans Pierre, nous avons lu que ces brebis, elles étaient errantes. On viendra peut-être tout à l'heure au sujet du conducteur. Une brebis errante, elle n'a plus de conducteur. Elle a peut-être suivi quelqu'un qui n'était pas conducteur et qui ensuite a disparu pour une raison ou l'autre, parce qu'il n'était pas le conducteur, qui est le Seigneur Jésus lui-même. Eh bien, il faut revenir, si on a suivi un autre conducteur qui n'était pas bienveillant, eh bien, il faut revenir au Seigneur Jésus, à celui qui est le berger, le seul bon berger, et celui qui est le seul bon berger qui veille. Il veille aux âmes, parce que les âmes lui sont chères. Il est quand même ce bon berger qui a donné sa vie pour les brebis. Elles lui appartiennent en propre. Aucun autre berger n'a donné sa vie pour les brebis. Il dit, elles sont à moi. Il a donné sa vie, il l'a reprise, il avait reçu ce commandement de la part de son Père. et il met sa vie pour ses brebis. Aucune autre personne n'a été aussi bienveillante que le Seigneur Jésus.
Et donc on pourrait, en prenant ce sujet, se poser la question, mais qu'est-ce que la surveillance? Et on comprend tout de suite que c'est en regardant vers le modèle, c'est en considérant comment le Seigneur Jésus a marché sur la terre, quelle a été sa relation avec toutes les âmes qu'il a rencontrées, avec ses disciples, et par après, comment le Saint-Esprit alors a agi pour que l'Église se construise, s'édifie, comment les enseignements nous sont parvenus par les considérations des apôtres, de ce qu'ils ont rencontré dans le chemin, et tout ça nous apporte alors à nous, voilà, ce qu'est la surveillance.
Donc je répète, surveiller, ça ne veut pas dire espionner, ça veut dire veiller sur, veiller pour le bien de quelqu'un. C'est quelque chose de bienveillant et d'édifiant. On trouve des exemples dans la parole de surveillance négative, dans le sens malveillant. Et c'est pour ça qu'au début, nous avons dit que dans le monde, on se sent mal à l'aise quand on est surveillé. Parce qu'il y a en effet une surveillance qui peut être totalement malveillante pour faire du tort à la personne. On en trouve des passages, n'est-ce pas?
Oui, on peut citer un exemple que je pense que beaucoup de personnes qui lisent la parole connaissent, c'est la relation entre Saül et David. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 19 et au verset 11, nous pouvons lire « Et Saül envoya des messagers à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Et Milka, sa femme, en informa David, disant « Si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu seras mis à mort. » Voilà donc une surveillance par le roi, à ce moment-là en titre, mais qui n'était pas pour le bien. Voilà, pour le bien de David, en tout cas.
Pour le faire mourir.
Pour le faire mourir.
C'est clairement malveillant. C'est clairement pour faire du tort. Le Seigneur Jésus aussi a connu cette surveillance. Quand il était homme sur la terre, il a souvent été surveillé par d'autres hommes, par des pharisiens notamment, et nous trouvons en Marc, chapitre 3, je lirai à partir du verset 1er, et il entra, donc le Seigneur entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il, donc les juifs, les pharisiens, et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat afin de l'accuser. Donc, on voit qu'il est observé, il est surveillé afin de le trouver en défaut. On trouve aussi dans Luc, chapitre 20, allons voir, Luc, chapitre 20, verset 20, là il est dit, « Et l'observant, ils envoyèrent des agents secrets qui feignaient d'être justes pour le surprendre en quelques paroles, de manière à le livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur. » Et on voit là que c'est encore une surveillance malveillante qui est même, on va dire, autorisée par ceux qui ont le pouvoir dans le pays. Et le Seigneur a connu ça. Mais lui n'est pas comme cela. Le Seigneur est totalement l'inverse. Il est celui qui veille sur nos âmes. Mais il a connu cette malveillance de la part des hommes. Il est donc aussi capable de sympathiser à nos souffrances lorsque nous sommes victimes d'une surveillance malveillante. Et donc il est d'autant plus capable de prendre soin de notre âme.
Et donc on voit combien ce service alors de la surveillance qui est cité dans les Épîtres est très important, mais en même temps aussi très délicat. Alors on peut lire dans la première épître à Timothée, au chapitre 3. Allons aller dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, où il nous est dit, au premier verset, « Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre. » Alors tous les versets qui suivent nous donnent tous les aspects de celui qui veut être un bon surveillant, de celui qui aspire à la surveillance. Et donc il y a d'abord ces premières expressions. Cette parole est certaine, c'est la parole de Dieu. C'est donc bien quelque chose qui est donné de Dieu que si quelqu'un aspire à la surveillance. Il n'est donc pas là vu comme quelqu'un qui a obtenu cette place de surveillant d'une manière ou d'une autre, mais il le désire, il aspire, c'est-à-dire qu'il le désire.
Oui, il désire être comme son propre maître, comme le Seigneur Jésus. Donc cette parole est certaine, on pourrait paraphraser en disant cette parole est conforme à la pensée de Dieu. Si quelqu'un aspire à la surveillance, c'est-à-dire s'il a le désir dans son cœur de veiller sur les âmes des brebis qui appartiennent au Seigneur, eh bien, il désire une bonne œuvre. Alors, c'est quoi une bonne œuvre? On trouve des bonnes œuvres. Ce sont celles que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Une bonne œuvre aux yeux de Dieu. Et c'est aussi ces œuvres qui sont en Tite 3, il dit de s'appliquer, nous pourrions le lire, Tite chapitre 3, avant de revenir à Timothée. Donc Tite chapitre 3 au verset 8, cette parole est certaine, je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres, ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Alors on peut très bien imaginer en mettant ces deux passages en relation que d'abord ces deux paroles sont certaines, elles sont conformes à la pensée de Dieu, et que si on a le cœur pour être au service des autres, pour veiller sur les autres, eh bien c'est une chose qui est bonne et utile aux autres. Donc véritablement, il faut avoir le désir de veiller sur les autres pour leur bien, et non pas par intérêt personnel ou par recherche d'un pouvoir ou d'une réputation ou d'un honneur particulier.
Alors on peut considérer quelques aspects de ce qui nous est dit sur le surveillant. Donc on a lu 1 Timothée 3, à partir du verset 2, on peut relire ces passages. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. On pourrait être un peu étonné de voir une si longue liste de choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu pour montrer ce que doit être un surveillant. L'épître à Tite dans laquelle on vient de lire au chapitre 3, nous donne elle aussi quelques mots sur le surveillant. Épître à Tite, chapitre 1er, et au verset 7. Car il faut que le surveillant soit irréprochable, comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. Voilà.
On voit dans tous ces adjectifs, dans cette description, qui doivent être des choses très concrètes dans la vie de celui qui aspire à la surveillance, l'importance que Dieu donne à cette fonction. Puisqu'il ne s'agit pas de choisir quiconque ou n'importe qui pour surveiller ceux qui sont les brebis qui sont tellement chères au cœur du Seigneur. Et donc, il faut que le surveillant soit irrépréhensible.
Et donc, c'est bien quelqu'un qui a ce désir de servir le Seigneur, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc non pas d'autres qui viennent désigner une personne en disant « ben voilà la liste de critères, tu en remplis suffisamment et on te considère comme surveillant. C'est la marche, la pratique d'un frère dans une assemblée qui va lui donner ce travail de surveillant et qui va être reconnu par l'ensemble de tous ceux qui composent ce témoignage.
En effet, on peut lire en acte 20 la confirmation biblique de ce que tu viens de dire, Étienne, en acte 20, verset 28, où il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. » Donc, qui établit un surveillant? Eh bien, c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui agit dans la personne qui deviendra surveillant. Cette personne se laisse guider par l'Esprit-Saint pour prendre soin des autres. Donc, c'est clairement quelqu'un qui est le témoignage évident qu'il est dirigé par l'Esprit-Saint dans sa vie. Et d'ailleurs, les adjectifs que nous avons lus là ne sont pas des caractères de la vieille nature. C'est clairement le fruit de l'Esprit. Si nous lisons, allons le lire. En Galates, chapitre 5 et au verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Donc voilà des caractères qui sont clairement le résultat de l'Esprit-Saint qui est dans un serviteur. Et donc, c'est bien l'Esprit-Saint qui établit un surveillant au milieu du troupeau. C'est-à-dire que les autres membres du troupeau vont simplement constater le fruit de l'Esprit dans la personne qui aspire à la surveillance. Et il aura cette douceur, il aura ce caractère sobre, sage, propre à enseigner, etc. On peut y revenir. Et il est établi par l'Esprit-Saint. Les autres doivent simplement le constater. Il marche en nouveauté de vie par l'Esprit. Et il consacre sa vie, son temps, son énergie pour le bien des autres, comme surveillant, comme celui qui veille pour le bien des âmes. Et dans ce verset de Acte 20, il dit « Prenez garde à vous-même ». C'est-à-dire que un surveillant n'est pas infaillible. Il doit d'abord prendre garde à lui-même, devant le Seigneur. Et à tout le troupeau, sans exception, sans faire de préférence, en disant « Je veux bien m'occuper de lui, mais pas de lui ». Alors ça, ce serait un caractère qui montre que ce n'est pas un véritable surveillant par l'Esprit, au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi. Au milieu, ça ne veut pas dire au centre. Dans l'expression grecque, c'est bien simplement dans le troupeau où vous vous trouvez. Et il a été établi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait lui-même pour être établi. On voit, c'est la forme passive. Hein. C'est l'Esprit-Saint qui l'a établi surveillant. Et ça devrait donner à celui qui a donc maintenant la fonction de surveillant, un sens de la grâce. Il a été établi par l'Esprit-Saint. Et donc, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de travail de l'Esprit-Saint en lui et par lui. Et si nous continuons, il est dit, quel est le but du surveillant? Donc l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, pour apporter la nourriture qui convient à ceux qui appartiennent à Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Alors là, il n'y a aucune prétention de la part d'un surveillant, aucune prétention possible. Si nous revenons à la première épître à Timothée, chapitre 3, dans ses qualificatifs, il est dit « il faut donc » que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre. Sobre, ça veut dire réfléchi, posé. Pas quelqu'un qui réagit de manière impulsive sans avoir d'abord réfléchi, pesé le pour et le contre, avoir discerné une situation. Sobre. Sage.
sage, c'est avoir la pensée de Dieu. C'est cette sagesse qui vient d'en haut. C'est pas quelqu'un, disons, qui ne se manifeste pas. On pourrait dire, voilà. Non, il y a un côté de connaissance de la pensée de Dieu, mais aussi, dans cette sagesse, il faut savoir affirmer la pensée de Dieu. Et donc, à cet égard, il est dit, dans les deux passages, propre à enseigner. Dans Timothée et dans Tite, on a vu qu'il était capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. Donc c'est aussi l'impact de la parole de Dieu qui est présentée, qui permet aux surveillants, justement, d'apporter cet enseignement qui va faire comprendre à une âme le chemin qu'elle doit suivre.
Donc, cette aptitude à enseigner, il est propre à enseigner. Ça veut dire que, d'abord, il a un exemple dans sa vie pratique qui le rend crédible. Il est propre à enseigner. Et aussi, ça veut dire qu'il est capable de faire passer un message. C'est bien le but, c'est de faire passer un message. Il y a aussi cette douceur qui est liée au surveillant. Cette douceur, mais qui en même temps est alliée avec une certaine fermeté quant à la vérité doctrinale. Doux avec les personnes, mais ferme quant à la vérité et quant au dépôt qu'il faut maintenir. Hospitalier, un mot très, très joli, hospitalier, l'hospitalité. Ça veut dire qu'on accueille quelqu'un à bras ouverts ou à cœur ouvert. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accueille ceux qu'on aime à bras ouverts. Ça veut dire qu'on accueille tous. Quand on est véritablement hospitalier, c'est qu'on a un cœur ouvert pour toutes les personnes. Même ceux qu'on n'a jamais vus et qui viendraient à se présenter, par exemple à la réunion, qu'est-ce qu'on fait? On les accueille. Où on essaie de les éviter parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Eh bien, un véritable surveillant va déjà, dès la première fois où il voit un visage, s'inquiéter ou mettre en œuvre ce qu'il faut pour le bien de cette âme-là, l'hospitalité.
Alors, il y a ces deux expressions qui sont données, irrépréhensible et irréprochable. Alors, ça semble deux expressions extrêmes, parce que ça fait penser à une âme à qui on n'a jamais rien su trouver, qui aurait pu être une parole ou un geste ou voilà une pensée émise qui aurait été un peu voilà sur laquelle on pourrait se poser des questions en se disant mais est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu? Mais cela nous montre que c'est en tout cas un serviteur à qui on ne peut pas justement reprocher quelque chose, vraiment, qu'on ne peut pas blâmer pour un acte ou pour une attitude.
En tout cas, qu'on ne peut pas reprendre sur l'enseignement que lui, voilà, il donne. Parce qu'autrement, un surveillant qui viendrait enseigner quelque chose pour mettre de l'ordre, eh bien, on pourrait lui reprocher de ne pas le faire dans sa propre vie, ou dans sa propre maison, ou dans sa propre famille, et lui dire « Ah, mais tu veux imposer cela dans la vie de l'Assemblée, mais tu ne le fais pas chez toi. » Alors ça, ce serait un reproche clair et évident, mais s'il l'applique de son côté pour lui et pour sa maison, on peut pas lui reprocher de vouloir le faire aussi dans l'Assemblée.
Et dans l'Épître à Tite, le terme « irréprochable » est lié à l'administration de Dieu. Voilà. Donc, c'est dans les choses que l'on administre pour le Seigneur, pour Dieu lui-même, que l'on doit être irréprochable.
Oui, c'est important, puisque je relis, il est dit, il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. C'est-à-dire que, nous l'avons lu tout à l'heure, surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise. Donc, l'assemblée n'appartient pas, et les âmes et les brebis n'appartiennent pas aux surveillants, tout appartient à Dieu. Et lorsque nous avons un service de la part de Dieu, nous sommes simplement des administrateurs, des managers, des gestionnaires. Nous n'avons pas la propriété. nous avons la responsabilité de gérer. Et donc, irréprochable comme administrateur, ça voudrait dire que on ne peut pas me reprocher de m'approprier quoi que ce soit dans le service que je fais pour le Seigneur. C'est-à-dire, nous avons cette tendance à nous approprier, par exemple, la gloire d'un service, ou l'autorité dans un service, ou un gain, quel qu'il soit. D'ailleurs, il est dit là, non avide d'un gain honteux, que ce soit de l'argent, de la gloire personnelle, ou quoi que ce soit d'autre, un avantage pour soi-même. Alors il faut, comme surveillant, que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, qu'il ne fasse rien pour prendre des choses pour lui-même, mais qu'on voit clairement dans le service, dans le comportement, dans les paroles de ce surveillant, qu'il fait tout pour le Seigneur et pour les autres. Ce n'est pas pour lui qu'il accomplit cette tâche.
On sent combien ce service est non seulement indispensable dans le fonctionnement de l'Assemblée, mais combien cela est sérieux aussi devant Dieu.
Sérieux et précieux au cœur de Dieu. Précieux. Parce que, on a dit, un administrateur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit connaître comment ça doit fonctionner devant Dieu. Prenons l'exemple du rassemblement. Eh bien, en 1 Timothée 3,15, il est dit « afin que tu saches comment il faut se conduire dans l'assemblée du Dieu vivant ». Et donc, cet administrateur, il doit être irréprochable. Il doit connaître, il doit avoir cette connaissance qu'il a reçue directement de la part du Seigneur, qu'il a mise en pratique d'abord dans sa vie et qui ensuite la révèle aux autres pour le bien des autres. Parce que tout ce qui vient du Seigneur, y compris la doctrine, l'enseignement biblique, il est bon et utile pour tous, pas seulement pour une catégorie de chrétiens, mais pour tous. Eh bien, ces administrateurs de Dieu, ce sont aussi comme des trésoriers. Il faut qu'ils soient fidèles et qu'ils soient justes.
Et dans ce verset de 1 Timothée 3, il faut se conduire. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Donc on revient à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Ce n'est pas la pensée du surveillant, ce n'est pas la pensée de quelques-uns, c'est la pensée de Dieu.
Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, on a parlé de surveillance bienveillante, comme celle du Seigneur Jésus. Et c'est celle qui est selon la pensée de Dieu et que tout serviteur du Seigneur doit appliquer. On a parlé aussi de la surveillance malveillante. Mais il y a peut-être aussi une autre sorte de surveillance qui n'est pas à proprement parler malveillante. Un chrétien pourrait dans un groupe non pas être malveillant, mais imposer une surveillance qui est restrictive, selon ses pensées ou ses intérêts à lui, en imposant des règles, des lois, qui ne sont pas selon la parole de Dieu, qui ne sont pas selon la vérité, et qui ne sont pas non plus pour faire du tort aux autres, bien que, en fin de compte, ça le fera peut-être, mais, voilà, il y a cet administrateur de Dieu, c'est selon la vérité, selon les Écritures, et non pas selon ses propres pensées, selon ses propres intérêts, et c'est très important que le surveillant, celui qui a la tâche de surveillant, qui a été établi par le Saint-Esprit, eh bien c'est véritablement pour paître l'Assemblée de Dieu, et non pas pour lui imposer des formes religieuses ou des traditions selon les hommes.
Alors on peut étendre aussi le propos, on a parlé au début que le Seigneur Jésus était le berger, qui faisait paître son troupeau. Et donc, le surveillant a donc un service pastoral aussi. Il est propre à enseigner, donc à conduire le troupeau vers de verts pâturages, c'est le psaume 23 que l'on connaît sans doute bien, mais aussi, surtout, d'aller, de porter l'âme vers le Seigneur Jésus. de lui apporter donc la nourriture céleste, l'eau, mais qui nous fait penser aussi à la parole qui vient non seulement nous abreuver, mais aussi nous laver, donc nous montrer tout ce que l'on doit aussi confesser devant le Seigneur, mais aussi qui remplit le cœur de paix, de joie. Et donc toutes ces choses sont en effet de la bienveillance pour toutes les âmes qui font partie du troupeau.
Donc un surveillant est appelé à effectuer un travail pastoral. Le travail pastoral consiste donc, comme tu viens de le dire, Étienne, à conduire à Christ, et on pourra parler peut-être juste après ça du rôle d'un conducteur selon la parole de Dieu. Donc le but c'est de conduire les âmes vers Christ, à Christ, là où il y a, comme tu l'as dit, de la nourriture, de l'eau et de la quiétude. Et aussi le travail pastoral comporte un autre aspect qui serait de veiller à la sécurité du troupeau tout entier. Et là, on a peut-être déjà l'exemple dans l'Ancien Testament.
Oui, dans l'Ancien Testament, on connaît ce cher David, encore jeune, dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 et au verset 34. Et David dit à Saül, « Ton serviteur paissait le menu bétail de son père, et un lion vint et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule. Et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappai, et le tuai. Ton serviteur a frappé, et le lion, et l'ours. » L'ennemi qui se présente pour dérober, ici, je délivrai le mouton de sa gueule.
On voit comment ce jeune David, qui est inconnu à cette époque de sa vie, il est inconnu des gens, il est connu de Dieu évidemment, a ce travail de surveillance véritablement à cœur. C'est-à-dire qu'il surveille le troupeau, le menu bétail de son père. Il se rend compte, il le dit, il ne dit pas « mes moutons, mes brebis ». Il donne un témoignage devant Saül en disant « je paissais le troupeau de mon père. » Et puis voilà un danger qui est arrivé. On comprend bien donc que David n'était pas en train de faire la sieste, il n'était pas en train de dormir, il a vu ce qui se passait. Il a vu ce lion et cet ours emporter des brebis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pas question de laisser faire. Il court, on voit l'empressement de son cœur. Il court pour récupérer ce qui appartient à son père. Et il revient avec les brebis qui avaient été ravies. On voit véritablement une détermination et un engagement pour les choses de Dieu qui nous fait plaisir, alors qu'il est encore jeune.
Et par après, l'Éternel va reconnaître devant tout le peuple celui qui va établir roi selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Mais il avait vu dans David cette droiture et cette détermination pour conduire le troupeau, et à ce moment-là, ça allait devenir le peuple d'Israël tout entier.
Et on voit que ce travail du jeune David, de surveillance, n'est pas un travail facile. Peut-être que pour un certain temps, il ne se passe rien, les journées sont longues, et puis tout à coup, un danger survient, et il faut agir tout de suite. Et donc, il court, il faut véritablement s'imaginer la réalité de la scène. Il court vers le lion, vers l'ours, il attrape l'animal par la barbe, et il le frappe. Il faut véritablement de la foi pour faire ce genre d'action. Parce qu'on pourrait très vite se dire, oui, mais moi je suis pas capable, de courir. En plus, aller vers un danger pareil, tant pis pour cette foi, il nous en reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup de brebis, etc. On peut se trouver facilement des prétextes pour ne pas faire ou pour ne pas agir. Mais le surveillant, eh bien, il est là. Il est toujours alerte. Et puis un surveillant, on l'a lu dans plusieurs passages déjà du Nouveau Testament, ou bien dans le cas de ce jeune David qui est berger. En fait, un surveillant et un berger, c'est quand même des fonctions qui se recoupent, puisqu'il faut, amener les brebis là où il y a de la nourriture, où il y a de l'herbe grasse, de l'herbe verte, où il y a de l'eau qui rafraîchit, on pourrait dire pour nous qui rafraîchit l'âme. Donc c'est quand même un conducteur. Alors est-ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu quelques versets sur les conducteurs ?
Mais nous avons relevé deux passages dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Hébreux 13, on a ce verset sans doute bien connu, verset 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. » Combien on a souvent médité sur un tel passage pour bien mettre les choses clairement. Il faut se souvenir de ces conducteurs, non pas pour les imiter dans les choses qu'ils pratiquaient couramment, mais il fallait imiter leur foi. Donc, il fallait comprendre aussi la conduite de ces conducteurs et aussi l'issue de leur conduite. Mais ils nous ont annoncé la parole de Dieu. Voilà.
C'est là que j'allais en venir. Il est dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Voilà, des conducteurs, on pourrait dire vos conducteurs, c'est-à-dire que Dieu vous a donné des conducteurs. Et les conducteurs ne sont pas des chefs, ce sont des frères qui ont reçu cette tâche de la part du Seigneur de montrer le chemin. Et comment montre-t-il le chemin ? On le voit ici, hein, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En principe, il n'est donc pas difficile de détecter un conducteur. C'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, et la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. C'est quelqu'un qui, par la parole de Dieu, nous montre clairement le chemin à suivre. Et ce n'est donc pas quelqu'un qui applique ou qui exerce une autorité en lui-même ou sa propre autorité sur le troupeau. C'est quelqu'un qui montre ce que Dieu demande. C'est quelqu'un qui a compris le chemin parce que Dieu lui a montré. Et Dieu nous donne ses conducteurs. C'est donc pour notre bien.
Et donc, dans ce verset 7, c'est ceux que nous avons connus, qui ne sont plus nécessairement présents. Souvenez-vous de vos conducteurs. Mais alors, le verset 17 nous parle des conducteurs actuels. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Alors ça rejoint justement cette surveillance, parce que ils sont conducteurs, mais ils veillent pour nos âmes.
Et rien que le fait qu'ils veillent pour notre âme, eh bien, ça devrait nous rassurer, plutôt que de les critiquer. Nous voyons dans ce frère le souci du bien de mon âme, de notre âme. En plus, il a à rendre compte. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille de son propre chef et qui décide tout par lui-même. Au contraire, il est dit, il veille pour vos âmes comme ayant à rendre compte. À rendre compte à qui ? Au Seigneur lui-même. Ce frère conducteur qui aspire à la surveillance, eh bien, il le fait devant le Seigneur, en sachant qu'il doit rendre compte au Seigneur de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il montre, et du chemin qu'il montre. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas lui obéir ? Puisque dans ce cas-là, obéir à un tel conducteur, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est obéir au Seigneur, puisqu'il nous présente la parole du Seigneur. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, soumis à la parole. Obéissez à vos conducteurs, on pourrait dire, puisqu'ils vous montrent l'autorité de la parole. Soyez soumis à la parole. Ils veillent pour vos âmes. Ils rendent compte devant Dieu de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, afin qu'il fasse cela avec joie. Ce service de conducteur, de surveillant, c'est quelque chose qui peut apporter de la joie. Servez le Seigneur avec joie. Ça ne veut pas dire que c'est facile. La joie et la facilité ne vont pas toujours de pair dans la parole de Dieu. On peut très bien connaître la joie, même dans les difficultés. Mais quand on fait ce que le Seigneur attend de chacun de nous, alors nous faisons avec joie, même si ce n'est pas facile. Eh bien, les conducteurs, même si leur tâche n'est pas facile, ils vont le faire avec joie, et d'autant plus si on les laisse faire leur travail. Au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues et de les empêcher de servir le Seigneur, parce que nous serions insoumis.
C'est profond quand même comme passage de la parole, parce que cela montre en effet que dans cette soumission ou cette non-soumission, il y a alors des conséquences. On attriste et de toute façon, on n'en reçoit pas quelque chose de profitable. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur la surveillance bienveillante, alors, n'est plus rencontré s'il n'y a pas de soumission et donc pas de joie et pas de profit.
Imaginons un serviteur du Seigneur qui a entendu cette parole directement du Seigneur dans son cœur. M'aimes-tu? Comme il a été dit à Pierre. Il a dit oui, je t'aime, Seigneur. Alors, paie mes agneaux. 3 fois. Sois berger de mes brebis. Paie mes brebis. Et voilà. Il aspire à la surveillance. Comme nous l'avons lu dans les passages précédents. Et puis, le troupeau ne se soumet pas. Pas à lui, mais à ce qu'il annonce de la parole de Dieu. Alors nous privons ce serviteur de la joie d'accomplir son service. Nous pouvons même aller jusqu'à le faire gémir dans son service. Et cela, ce serait pour notre perte à nous, parce qu'il est dit, et cela ne vous serait pas profitable. Dieu nous envoie un serviteur pour notre bénéfice, pour notre santé spirituelle, et nous n'en voulons pas. On peut imaginer la difficulté pour un frère qui aspire à la surveillance d'être tout le temps rejeté alors qu'il a de bonnes intentions et qu'il est juste. Pensons maintenant au Seigneur Jésus lui-même. Revenons à cette expression du départ qui nous dit que le Seigneur Jésus, il est le surveillant de nos âmes. Est-ce que nous nous soumettons au Seigneur Jésus? Est-ce que nous acceptons qu'il soit notre conducteur ou bien nous le frustrons? Nous l'empêchons de nous bénir par notre insoumission à sa parole, alors que nous n'avons aucune raison de douter des motifs du Seigneur Jésus à notre égard.
Tout à fait. Et je pensais comme modèle parfait à cette expression, on parlait de la joie des conducteurs et sans doute aussi de la joie du troupeau. C'est dans la même épître aux Hébreux, au chapitre 12. Fixant les yeux sur Jésus. Le chef, donc celui qui marche devant, qui est à la tête, donc le conducteur, mais aussi le surveillant de nos âmes, le chef est le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui. Voilà. Le Seigneur avait cette joie de servir son Père. Il avait ça devant lui. Eh bien, ça lui a permis d'endurer la croix, de mépriser la honte. Et il reçoit cette place et il est assis à la droite du trône de Dieu. L'apôtre Paul lui-même avait enduré beaucoup de souffrances, mais il savait qu'il y avait une couronne qu'il allait recevoir là-haut dans le ciel.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.